Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici dans un dimanche un peu particulier, car la nativité de Saint Jean-Baptiste l'emporte sur un dimanche ordinaire. Elle est une fête de première classe, et donc elle est solennisée un dimanche. Alors nous l'avons solennisée ce matin, mais comme c'est le jour même lui-même, c'est plus qu'une solennité, c'est la fête elle-même de Saint Jean-Baptiste dans sa nativité. Et nous devons bien méditer ce soir, en effet, cette fête et ce saint, car il est parfois moins connu, parce que la piété populaire l'a un peu déplacé au profit de Saint Joseph habituellement. En effet, Saint Joseph étant le père adoptif de notre Seigneur et un homme d'une sainteté discrète mais certaine du fait même qu'il lui a été confié le Fils de Dieu, il a dans le cœur des peuples remplacé petit à petit l'importance prophétique et historique de Saint Jean-Baptiste. Alors, bien sûr, les saints ne se font pas concurrence dans la vie éternelle. Et Saint Jean-Baptiste lui-même disait qu'il faut qu'il grandisse, en parlant de notre Seigneur, et que je diminue. Mais cela ne nous empêche pas, bien sûr, de l'honorer et de réfléchir même à son importance théologique actuellement, aussi bien dans notre vie spirituelle que dans la vie de nos communautés. Tout d'abord, dans notre vie spirituelle. En effet, des hommes providentiels, il en est un que nous ne pouvons pas éviter. C'est Jésus lui-même. Jésus, lui, est un homme avec un corps, une âme, mais sa personne est divine. Elle est celle de la parole éternelle du Père. Et il est vrai Dieu, parce qu'il est le Fils. Il est vrai homme, parce qu'il a notre nature humaine. Et nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais l'éviter. Que nous soyons juifs et que nous soyons confrontés à sa messianité, au fait qu'il est celui qui a été annoncé par les prophètes et qu'il est le Messie et le Sauveur, celui qui est l'aboutissement du message plus particulier qui a été donné non seulement en promesse de salut à l'humanité par le protévangile, par l'annonce faite à Satan, à Lucifer, que la descendance de Ève lui écrasera la tête du serpent, mais aussi par cette nouvelle promesse faite à Abraham que sa descendance serait comme le sable de la mer, le sable des rivages, comme le nombre des étoiles. Et en effet, lorsque nous empruntons ces prophéties de la plus large jusqu'à la plus étroite, nous sommes exactement dans une promesse qui est faite à toute l'humanité, mais qui s'est restreinte petit à petit à un peuple unique qui a accueilli le Sauveur. Il fallait bien que notre Seigneur naisse dans un peuple. Il aurait pu être saxon, il aurait pu être aborigène, il aurait pu être africain, il aurait pu être de 1000 peuples, il a été hébreu. C'est-à-dire qu'il est le descendant par Hébert d'Abraham, et plus particulièrement de David, de la tribu de Benjamin, avec une ascendance également de la tribu d'Aaron, qui était la tribu de Lévi. Tout cela pour bien nous faire comprendre qu'il y a des hommes providentiels, des saints et des saintes qui ont une mission particulière. Et dans la vie civile, on remarque surtout ceux qui ont été empereurs, ceux qui ont eu du pouvoir, mais la vie religieuse nous présente des prophètes, de grands hommes ou de saintes femmes qui ont marqué l'histoire. Nous avons en France, de manière très proche, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous avons, de manière plus éloignée à Paris, Sainte Geneviève. Nous avons en Italie, Sainte Catherine de Sienne. Nous avons le Saint Curé d'Ars. L'Italie a été marquée par le règne de Saint Pidis. Nous avons, à travers les siècles, des hommes et des femmes qui ont été providentiels. Parfois, nous avons eu l'union entre une mission religieuse et une mission politique. Nous avons eu Saint Louis. Nous avons eu Sainte Jeanne d'Arc. Mais tout cela doit surtout nous faire bien comprendre que la vraie religion, elle est incarnée. Et qu'en effet, elle n'est pas seulement à notre pensée, à ce que l'on contemple et ce qu'on imagine, mais à une rencontre avec un Dieu concret qui est notre Père et qui fait naître des hommes, des femmes, et parmi eux, ceux qui vont nous donner la foi, l'espérance, et qui vont augmenter en nous la charité. Alors, justement, Saint Jean-Baptiste est de ces hommes-là, mais d'une manière un peu particulière dans les temps qui sont les nôtres. En effet, même si vous ne suivez pas l'actualité, vous ne pourrez pas échapper à ce qui monte et ce qui monte encore de la présence de nombreux musulmans en Europe et qui vont venir petit à petit. Vous avez des autorités politiques, des États qui se disputent, qui se querellent pour savoir comment gérer cette montée migratoire en Europe. Mais ce qui est très intéressant pour nous, à côté de la crainte que nous pouvons avoir d'un point de vue même économique, eh bien c'est l'aspect religieux qui aussi peut être inquiétant. Cet aspect religieux, il est fondé sur le fait que la religion musulmane prend comme homme providentiel Mohammed. Un homme qui aurait eu des révélations divines 600 ans après Jésus, qui serait revenu sur le mariage dans sa sainteté en permettant à nouveau la répudiation et la polygamie, qui aurait été un homme de guerre qui aura diffusé son message par des conquêtes militaires. Et cela, 600 ans après, un sauveur, un messie, qui lui nous demande de ne pas répudier nos épouses, et de ne pas être polygame, et de ne pas faire la guerre. Mais vous allez me dire que les chrétiens ont fait des guerres. Oui, mais ce n'est pas le message du Christ dans sa finesse. Nous avons toujours voulu faire des guerres justifiées, des guerres justes ou des guerres de défense. Voilà donc l'importance de la religion. Or, les musulmans ont toute une partie de la Bible. Ils ont aussi Abraham. Et figurez-vous qu'ils ont aussi Jean. Et que dans la mosquée des Omeyyades à Damas, il y a une petite chapelle où il y a la tête de Saint Jean-Baptiste. Elle est vénérée d'une manière exceptionnelle chez les musulmans parce que c'est le tombeau d'un prophète. Et pour les musulmans, Jésus est un simple prophète. qui annonce l'Esprit Saint, qui aurait été en fait le nom mystérieux de Mahomet, qui serait venu et qui aurait été l'accomplissement de la promesse de la venue de l'Esprit Saint. Nous voyons bien donc que nos religions vont entrer dans des querelles théologiques, dans des contradictions. Et cette contradiction vient au même moment, au moment d'une perte de la foi et d'une décadence de la morale en Europe. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand Saint Jean-Baptiste, lui, vient, et qu'il est entouré de miracles, que son père Zacharie, qui était prêtre, entre dans le temple de Jérusalem pour la prière du soir, pour les vêpres, offre le parfum. Et voici que l'archange Gabriel lui apparaît et lui dit qu'il va avoir un enfant. Or, il est très âgé. Il a 70 ans, 80 ans. Son épouse Élisabeth a 80 ans également. Et il répond à cet ange dans le temple de Jérusalem, ce n'est pas possible. Alors, l'archange Gabriel lui dit, je suis un des sept esprits présents devant Dieu, tu ne me crois pas, eh bien jusqu'à ce que cet enfant naisse, tu seras muet. Et voilà qu'il sort du temple et qu'il est muet. Il décrit bien quelque chose et les gens se posent des questions. Et lorsque son épouse va concevoir, 9 mois plus tard, toujours muet, on demande à ce qu'il soit appelé Ben Zacharie, le fils de Zacharie. Mais Gabriel, archange, lui avait dit qu'il s'appellerait Jean, Dieu qui fait grâce. Alors Élisabeth dit, il doit s'appeler Jean. Et lui qui était muet, on lui fait des signes, on lui demande. Il demande une tablette et il grave son nom et Jean. À ce moment-là, il reprend sa voix. Mais ça fait 9 mois qu'il était muet et on savait que c'était en sortant du temple. Et voilà que la Vierge Marie reçoit la visite de Gabriel, qui lui dit qu'elle deviendra la mère du Sauveur, que cet enfant sera miraculeux. Joseph, lui, est désemparé. Gabriel Archange lui apparaît en songe. Il est consolé. Mais voilà que cette Vierge qui enfante un enfant va descendre, car Gabriel lui dit, comme preuve de ma parole, Élisabeth, ta cousine, a conçu un fils. Et il a 6 mois. La Vierge Marie descend. Et en Judée, tout près de Bethléem, et voici qu'elle apparaît devant Élisabeth. Élisabeth a son enfant qui tressaille en elle, et elle lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Que me vaut que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Tout cela, voyez-vous, fonde cette église, ces piliers, cette voûte, ce tabernacle, le Christ qui a pris le pain, qui a pris le vin et qui les a changés, qui les a transsubstanciés en son corps et en son sang, la veille de son sacrifice, du sacrifice de l'agneau pascal, de cet agneau dont Saint Jean-Baptiste, 30 ans plus tard, après sa naissance, disait qu'il était l'agneau de l'Alliance. Notre foi est donc bien fondée. Et pour ajouter à votre prière, priez aussi pour les Juifs qui attendent le Messie et qui savent bien, quand ils entendent ces récits, ils savent qu'il y a un trouble chez eux et qu'ils attendent. Pourquoi ce prêtre Zacharie? Pourquoi ce prêtre Jean-Baptiste? Pourquoi est-il parti dans le désert? Pourquoi a-t-il dit que Jésus était l'agneau de Dieu? Pourquoi Jésus a pris le pain et le vin? Tout cela pour nous faire comprendre que la religion, elle n'est pas seulement culturelle. Car moi, je ne suis pas d'origine juive. Et il y a des musulmans qui ont reçu le baptême. Oui, la religion, elle est dans la vérité historique et personnelle. Pourquoi? Eh bien parce que l'incarnation, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Jésus est l'époux. Et saint Jean-Baptiste disait qu'il était l'ami de l'époux. Et que lorsque l'ami de l'époux entend l'époux arriver pour le mariage, pour les noces, il se réjouit et il laisse sa place à l'époux qui vient. Et dans l'Apocalypse, saint Jean, l'apôtre, l'évangéliste, nous dit que nous sommes invités aux noces de l'agneau. Jésus lui-même va comparer sa venue à un mariage organisé par le maître de la vigne, organisé par un roi pour son fils. Eh bien, nous-mêmes, ayons cette foi profonde pour pouvoir la communiquer à des juifs, à des musulmans, et pour pouvoir aussi dire qu'il y a des Français, des Occidentaux, qui ont la foi, qui ont l'espérance, mais qui ont aussi une morale, non pas puritaine, mais qui est fondée sur la charité. Demandons-le plus particulièrement au cœur sacré de Jésus en ce mois de juin. Demandons-le au cœur immaculé de Marie, à la fille de Sion, celle qui a résumé toute l'espérance d'Israël et qui a reçu de sainte Élisabeth la grande salutation après que Gabriel l'ait saluée également. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et Élisabeth de dire, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.